Voilà, ce matin on va parler du corps de Christ, on va parler de l'Église, on va parler de ce que la Bible nous en dit, de comment Jésus la voit et de comment nous sommes appelés les uns et les autres, non seulement à la voir, mais simplement à la voir pourrait faire de nous des théologiens d'extérieur, ce qui ne me semble pas être la vision de Dieu pour nos vies, mais surtout comment la vivre, comment en être ses acteurs, ses membres, celles et ceux qui en dépendent. Nous allons voir que l'Église est quelque chose d'extraordinaire sur un plan universel. L'Église que Jésus prépare, celle que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19 et qui nous fait voir, particulièrement j'aime beaucoup ce chapitre parce qu'il nous fait voir comment les noces se préparent, comment nous nous retrouvons dans la présence de l'Époux. Mais aussi comment cette Église est appelée à vivre sur un plan beaucoup plus local, beaucoup plus humain, c'est-à-dire d'une manière concrète. Pas simplement dans de vagues intentions, mais d'une manière pratique, d'une manière qui nous touche et qui vient nous tester, nous éprouver, nous travailler. On va regarder tout ça ce matin. Le premier texte que j'ai choisi se trouve dans Matthieu 16, verset 18, où il dit, c'est Jésus qui répond à Pierre qui vient d'avoir une révélation de qui est Jésus, et où il va lui dire, « Eh bien, moi, je dis que toi, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, au sens large du terme, au sens universel du terme, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus vient de faire là une déclaration puissante, et l'évangile de Matthieu est celui des quatre évangiles qui nous parle le plus de l'Église d'une manière véritable et celui qui met le plus l'emphase dessus. Et Jésus, là, à Pierre, est en train de lui déclarer quelque chose de fort. Il dit « Voilà ce qui se passe ». Et sur le fondement des apôtres, Paul nous en parlera un peu plus tard, eh bien, il y a quelque chose qui s'établit, c'est l'Église. Et cette Église, dans la mentalité, dans la pensée de Dieu, dans son cœur, il dit que même les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre elle. Vous dire la puissance que Dieu donne à l'Église, celle que si souvent dans le monde courant nous négligeons, celle qui si souvent est salie par tellement de, malheureusement pas de fake news, de réelles nouvelles, d'hommes et de femmes qui d'une manière ou d'une autre viennent la salir avec légèreté. Je me garderai ici de vous donner des exemples parce qu'il serait forcément réducteur et il viserait simplement à cibler une ou deux personnes ou tel groupe. Et je crois malheureusement que la réalité de l'Église, à la fois si puissante, les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle, et à la fois si fragile parce que Dieu nous la confie à nous, êtres humains, dans toutes nos faiblesses, dans toute notre fragilité, dans tout notre ADN encore marqué d'une manière ou d'une autre par le péché. Et Jésus, et ça c'est un truc que je ne comprends pas, mais Jésus, dans la folie de son amour pour nous, fait de nous son Église, celle qu'il prépare pour les noces, et en même temps il nous la confie alors que nous sommes si faibles. Je dis waouh, quelle preuve d'amour, quelle vision parfaite Jésus a alors que nous sommes si fragiles et si enclins à la vivre quelque part avec tellement de torsion et du coup à abîmer ce que lui a préparé. L'Église est probablement ce qu'il y a de plus beau dans la pensée de Christ, ce qu'il prépare pour l'éternité, et nous allons voir rapidement comment à quoi elle est comparée. Elle est comparée déjà à une épouse. Éphésiens 5, versets 25 à 27 nous dit « Marie, messieurs, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est lui-même livré pour elle, afin de la sanctifier, de la mettre à part par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église, et voilà quelle est la vision de Jésus, de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La vision de Jésus est celle-ci. La vision de Jésus pour l'Église est celle-ci. C'est de préparer une épouse qui est mise à part, qui est purifiée, qui est glorieuse, qui est sans tache, qui n'a pas de rides, pas de traces de blessures ou de choses qui sont venues l'abîmer, rien de semblable à ça, mais juste de la beauté. Elle s'est laissée préparer. Voilà ce que Jésus a imaginé pour l'Église. Elle est comparée à cette épouse, à celle que Dieu prépare pour Jésus. Elle est, à la fin du livre de l'Apocalypse, celle qui va rencontrer l'époux, qui va rentrer dans la présence même de Dieu. Et nous en sommes. Et je ne comprends pas que personne dise Amen. Imagine, ce n'est pas toi uniquement en tant qu'individu qui va être dans la présence de Dieu. Toi et moi en tant qu'individu, désolé de te le dire, mais sur un plan biblique, en fait, on n'existe pas vraiment, on existe en tant qu'intégré à l'Église de Jésus. C'est-à-dire que le côté individuel, nombriliste de l'homme, n'existe pas dans la présence du Père. C'est absolument pas dans sa conception. Oui, il est venu pour nous racheter chacun personnellement de nos péchés. Oui, il est venu, il a donné sa vie pour toi et moi sans aucune limite et il pensait bien à chacun de nous d'une manière individuelle. Mais pourquoi ? Pour nous ramener dans son plan parfait. Et ce plan parfait, c'est l'Église. Ce plan parfait, c'est ce que Dieu construit, bâti depuis des siècles et des siècles et pas simplement l'Église aujourd'hui en 2020, mais l'Église de tout temps et pour tout temps, celle qui va être dans sa présence pour l'éternité, celle qui est son épouse, celle qui est son épouse pour toujours, celle qui va participer non seulement aux noces, mais à une vie d'épouse. Vous êtes bien d'accord, messieurs, que lorsqu'on se marie, on ne se marie pas juste pour le jour du mariage ou juste pour la lune de miel, mais pour une vie, pour une continuité. Et c'est si imparfait pour nous, et pourtant Jésus nous donne déjà de le comprendre un peu, mais c'est tellement parfait dans la vision de Jésus. Une épouse pour l'éternité qu'il prépare au travers de chacun de nous, réunis. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on prenait la scène, c'est tellement important de se rappeler ça. C'est tellement important de se rappeler que nous faisons partie d'un tout et que ma vision et ma compréhension de ce tout est tellement nécessaire, tellement capitale, parce que Jésus ne m'a pas racheté moi tout seul, mais moi plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, chacun rattaché pleinement les uns aux autres et pleinement dans une unité. Et que tout ce qui... Si les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre l'Église, il faut bien comprendre que tout ce qui va venir chercher à déstabiliser l'Église est quelque chose qui en réalité est contre Christ, contre sa pensée, contre son cœur pour l'Église et pour chacun de nous. Et là, il se lève. Alors que nous prions pour l'Église en Chine, mais que nous prions aussi pour l'Église un peu partout, et déjà ici en France, nous devons comprendre et saisir qu'il y a cette mentalité de Dieu qui, oui, se lève pour la protéger, pour l'emmener plus loin, pour la rendre pure, mais aussi pour se lever comme un gardien, comme un héros entre l'Église et tout ce qui cherche à la détruire d'une manière ou d'une autre. Il y a deux choses qui pourraient me mettre très en colère sur cette planète, c'est les gens qui toucheraient à ma femme ou à mes enfants. Et je pense que là, je le dis, tant pis si c'est pas bien et c'est pas juste, mais j'assume. Je pense que là, je pourrais perdre tout sentiment chrétien parce qu'il y a des moments dans la vie où... Vous savez, j'aime pas trop l'hypocrisie, donc je vous le dis comme je le vis. Imagine comment tu réagis quand quelqu'un touche à ta femme ou à ta fille. Imagine comment Jésus réagit quand quelqu'un touche à l'Église. Parce que, vous souvenez comment on voit Jésus dans l'Apocalypse, on le voit aussi comme ce lion, comme celui qui a une épée qui sort de la bouche, comme celui qui combat toutes celles et ceux, toutes les principautés qui s'élèvent contre l'Église. Il n'est pas pensable dans la mentalité de Christ de dire « Ah tiens, il bafouille l'Église, on s'en moque ». Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas quelque chose de concevable. Déjà, c'est peu concevable pour nous. Imagine, Peter, il y a quelqu'un qui vient et puis qui met une tartine à sa femme. Tu penses qu'il va rester là comme ça ? Désolé, je te prends un témoin, gars, mais bien sûr. Tu lui imposes les mains ? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Attention, je ne prône pas la violence. Je dis simplement que nous devons avoir des positions. Nous devons être animés de cette mentalité-là. Non pas pour nous battre vulgairement parlant, d'accord ? Mais pour être des protecteurs. De la même manière, je fais un petit aparté là, de la même manière que Jésus est un protecteur pour l'Église, nous sommes appelés, je parle aux papas et aux mamans particulièrement, nous sommes amenés à être des protecteurs dans nos maisons et à nous lever contre ce qui vient détruire nos maisons. Et souvent, ce qui vient détruire nos maisons, ce n'est pas le mec qui vient draguer ta fille. C'est le principe que tu as laissé rentrer avant dans ta maison qui a permis cela. Et ça ne sert à rien de démonter le gars qui est venu la draguer. Il faut déjà que tu te remettes en question et que tu regardes qu'est-ce qui dans ta maison a permis qu'un jour ta fille se laisse regarder de cette manière-là par un gars qui est pour rien, il va en prendre une, mais ce n'est pas de sa faute. Nous devons être des garants. De la même manière qu'il y a dans la mentalité de Jésus un cœur qui est vraiment pour l'Église et qu'il ne veut absolument pas qu'on la touche. De la même manière, et ça fait partie de la vie de l'Église, nous devons être dans nos maisons des protections. Nous devons être dans nos maisons des protections. Des hommes et des femmes qui prient pour celles et ceux que Dieu nous a confiés. On en reparlera un tout petit peu plus tard. L'Église est une épouse. Une épouse en préparation. Mais vous êtes bien d'accord avec moi qu'une épouse en préparation est déjà dans la mentalité de celui qui l'attend, une épouse. L'Église est un corps. 1 Corinthiens 12, 27 nous dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Éphésiens 1, 21 nous dit « C'est là que le Christ règne à présent. » Élevé par Dieu, bien au-dessus de toutes les autorités, de toutes les puissances, des dominations et les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans le monde présent et futur. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité de Christ, de l'époux. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Jésus et l'Église font un. Si tu me coupes la tête, on est bien d'accord que tu vas plus pouvoir dire il y a Serge d'un côté, il y a Serge de l'autre. Il n'y a plus rien de chaque côté. Jésus et l'Église font un. Un et un seul. Absolument indivisible, absolument lié l'un à l'autre. Ce corps, verset 23, œuvre parfaite du Créateur et de toutes choses, le Christ le fait grandir sans cesse et il comble chaque membre de sa plénitude. Lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Imagine bien, Jésus, qui est la tête du corps, remplit chaque membre, chaque morceau, chaque partie d'organe est remplie de la plénitude de la vie de Jésus. Si dans mon corps, il y a un endroit où le sang ne circule plus, on est bien d'accord que très rapidement, les médecins ne me contrediront pas, je pense, très rapidement, ça va mourir, ça va gangréner. Il va falloir amputer. Ce n'est pas la vision de Jésus pour le corps. Ce n'est pas la vision de Jésus pour toi et moi. Sa vision pour toi et moi, c'est que nous soyons un et remplis de toute la présence de Dieu. Remplis de toute la plénitude de sa vie. Il a pas imaginé de dire, bon, on va remplir jusqu'en haut, puis le bas, on s'en fiche. Quand tu remplis plus en bas, ça passe plus et on coupe. Jésus a prévu que toi et moi, nous soyons unis les uns aux autres et que la plénitude de sa vie, toute la plénitude de sa vie, nous dit Paul, Éphésiens 1, verset 23, passe dans ma vie, passe dans mon être entier. Pourquoi? Parce que mon être entier n'est qu'en fait une partie infime de l'Église, du corps de Christ. Et je suis complètement dépendant. Tout est attaché à la tête, tout est attaché au corps, tout est attaché à Jésus. Christ règne au-dessus de tout et Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Ce corps, il le fait grandir sans cesse, on vient de le lire, et il comble chaque membre de toute sa présence, de toute sa plénitude. Voilà comment Jésus nous regarde et voilà comment nous sommes amenés à regarder les autres dans l'Église. Ce n'est pas juste moi en me disant « Ouais, super, Jésus me remplit de sa plénitude. » Mais Jésus veut remplir de sa plénitude chacun d'entre nous. Ceux avec qui ça passe facile et ceux avec qui ça passe moins facile. Jésus a prévu que ça passe pleinement dans la vie de tous. Il a pas mis des membres, des organes en exclusion. On va le lire tout à l'heure. Il a tout mis d'une manière parfaite pour que toi et moi, nous lui appartenions, pour que toi et moi, nous soyons remplis de sa plénitude et pour que toi et moi, nous comprenions que chacun fait partie de ce corps. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment quand on a mal un endroit du corps, toute la concentration du corps est fixée sur cet endroit qui a mal. T'as beau être bien partout, si je t'éclate le petit orteil du doigt de pied, toute la concentration de ton énergie va être sur l'orteil du doigt de pied. Tu vas penser qu'à ça. Pourtant, tout le reste est en bon état. Mais tout va être sur cet orteil-là. Il n'y a rien, il n'y a aucune partie. Tu ne vas rien penser d'autre que ça. On est complètement interdépendants. On est complètement les uns liés aux autres. On a besoin les uns des autres. On a besoin de vivre cette dimension-là. Et on a besoin que la vie, elle passe de la même manière partout, parce que quand elle ne passe pas de la même manière partout, eh bien le corps souffre. Et ça, ce n'est pas dans la mentalité, ce n'est pas dans le cœur de Dieu. Une épouse, un corps, et si c'est un corps, eh bien nous sommes tous membres et nous sommes tous interdépendants les uns des autres. On va lire un texte un petit peu plus long dans 1 Corinthiens 12, on va le prendre un peu plus dans sa longueur à partir du verset 11 qui nous renvoie un petit peu cette image du corps et cette interdépendance qu'il y a les uns avec les autres. Ce corps qui est lié par des membres qui ne peuvent fonctionner sans les autres. 1 Corinthiens 12, 11 nous dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » En d'autres termes, ça veut dire que ce n'est pas toi et moi qui choisissons à quel endroit on est dans le corps. D'accord ? Si mon orteil décidait d'être à la place de mon oreille, ouais, ça te paraît stupide. Mais des fois, on réagit comme ça. Des fois, on est comme ça. Je dis, ouais, mais moi, j'aimerais être là. Mais ouais, mais toi, tu es un orteil. Et si l'orteil n'est pas au bon endroit ? Et si tu mets l'oreille à la place de l'orteil ? Alors, tu ne vas pas entendre grand-chose, puis ça va vite être crado. Hein. Et en termes de stabilité, l'oreille extérieure, je ne parle pas de l'oreille interne, l'oreille extérieure, elle n'apporte rien en stabilité. Par contre, le petit orteil, vous savez, le plus petit, celui qu'on galère quand on coupe les ongles, celui pour qui on a le plus de mycose, celui-ci, s'il n'est pas à sa place, s'il n'est pas en forme, eh ben, tu tombes très rapidement. Juste un orteil en moins et tu perds ton équilibre. Reprenons. Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et quand nous prenons la scène, nous déclarons, et quand nous nous faisons baptiser, nous déclarons simplement ce que Jésus a déclaré avant nous sur nos vies. nous faisons partie d'un ensemble qui nous dépasse, mais duquel nous appartenons pleinement, et dans lequel nous ne pouvons pas dire, oh ben ça ne m'intéresse pas, parce que tout en fait partie, et notre engagement avec Christ, le fait de reconnaître Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur, implique d'une manière systématique que j'appartiens pleinement à ce corps et que je dois en comprendre toute la richesse, toute la grandeur et toute la le fait de rien exclure. Le corps est un tout. Verset 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Et si tout était ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tout était un seul corps, un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. On reviendra sur cette notion les uns des autres. Avoir soin les uns des autres. Dieu a fait exprès. Eh ouais, il a fait exprès de nous rendre interdépendants les uns des autres, mais pas les mêmes. Tous différents, avec une fonction différente. Avec des choses qui parfois semblent être plus belles et qui ont besoin du coup de moins d'honneur, avec des choses qui semblent être plus fragiles et qui ont besoin de plus d'honneur. Verset 26, « Et si un membre souffre, ce que nous disions tout à l'heure, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes interdépendants les uns des autres. » Voilà la vision de l'Église. C.S. Lewis écrivait, le terme de membre était d'origine chrétienne, mais il a perdu au fil du temps son sens originel. Pour Paul, être un membre de l'Église signifie devenir un rouage essentiel d'un organisme vivant. Un rouage essentiel, pas un rouage parmi tant d'autres, et si on l'enlève, c'est pas grave. Un rouage essentiel dans un organisme vivant. Une partie indispensable et interconnectée du corps de Christ. Vous retrouverez ça dans le livre de Rick Warren, Une vie motivée par l'essentiel, page 140. Nous devons retrouver et pratiquer le sens biblique du mot membre. On a besoin de comprendre, et si Paul appuie tellement sur la Sainte-Seine, sur cet aspect-là, notons bien que Paul insiste sur l'aspect du corps et d'être membre les uns des autres. Bien sûr qu'il insiste sur l'aspect que Jésus a donné sa vie, tout ça, mais il le met directement en lien avec le corps, avec l'Église, avec l'interdépendance les uns aux autres. C'est sur ce point-là que Paul met l'accent, et ce n'est pas Paul qui le met, c'est le Saint-Esprit qui pousse Paul à dire attention. Et vous savez pourquoi ? Parce que dans l'Église de Corinthe, c'est exactement la même Église qu'aujourd'hui en 2020 en France. C'est une Église qui a tous les dons, c'est une Église qui a plein de choses bonnes, et c'est une église en même temps qui rencontre plein de soucis. Et il parle en toute liberté. Et il dit, mais il y a au milieu de vous des choses qui sont bonnes, c'est vrai. Et il dit, en même temps, il y a des choses qui sont compliquées. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, quand vous vous retrouvez devant la table du Seigneur, eh bien, dans ce temps crucial, ça met juste une chose en évidence. C'est que tu ne comprends pas ce qu'est l'église. Dans l'église de Corinthe, au moment de prendre la Sainte Cène, c'était dans le temps du repas. Imagine, tout à l'heure, on va être à l'agape. Eh bien, il y en avait d'un côté de la table qui avait à foison à manger et qui était sérieusement joyeux du vin qu'il buvait. Et de l'autre côté, les petites gens, ceux qui avaient moins, ceux avec qui on partageait pas, ceux qu'on négligeait. Et Paul est scandalisé de voir ces choses-là, et c'est le Saint-Esprit qui le pousse et il dit, là il y a quelque chose qui n'est pas normal. Si quand on prend la Sainte Cène, ce n'est pas le temps où justement on laisse au Saint-Esprit descendre en nous et nous donner de saisir la notion du corps, la notion d'interdépendance les uns des autres, alors comment le vivrons-nous ? Nous avons besoin, et c'est une prière qui est juste devant Dieu. Seigneur, fais-moi voir les autres comme toi tu les vois. Fais-moi voir le corps, l'église, comme toi tu le vois. Pas juste l'église universelle, celle qui est large et que personne ne connaît réellement si ce n'est toi, mais celle que tu me donnes de vivre au quotidien autour de moi. On va en profiter pour passer un peu sur l'église locale. Parce que toutes ces choses sont très belles, mais si on ne les descend pas à notre mesure, dans notre vision, on ne les comprend pas. Si on ne les descend pas dans l'espace dans lequel on va pouvoir être jaugé responsable par Dieu, on ne les comprend pas, c'est juste de la théorie. Vous savez, c'est comme l'écologie, tout le monde est pour. Enfin, je mets des guillemets à tout le monde est pour et je ne mettrai pas de débat là-dessus, d'accord ? Mais on a tous envie de respirer un air qui est pur, de boire de la flotte qui est propre et de ne pas trop salir la planète pour nos enfants. Hein ? Là-dessus, on est tous d'accord. Après, dans la manière de le faire, on fermera le débat ici, c'est dangereux dans la période actuelle. Mais c'est comme l'écologie, tout le monde est pour. Par contre, dès qu'il faut recycler une poubelle, je parle juste de notre pays, il y a 2/3 des Français qui sont contre. Et ils ont plein d'excuses. Ouais, les autres le font pas. Ouais, mais Veolia, j'ai vu une émission, Ouais, mais si tout le monde fait comme ça, si tout le monde réagit comme ça, si t'es pas foutu, allez, j'en profite. Faites attention à la poubelle jaune dehors. Si t'as pas envie de trier, mets-le dans la noire, mais viens pas salir le tri des autres. On est responsable, on est co-responsable. Et en fait, dans l'église, bah, c'est pareil. On peut toujours parler de l'écologie au sens global, mais si on n'est pas un minimum écolo dans ce qui me concerne, bah, ça ne changera rien. Et de la même manière pour l'église, on peut toujours parler de l'amour de Jésus pour tous les peuples, tout ça. Mais si je ne le vis pas au plan local, c'est des discours et on n'en a rien à taper. Parce que ça ne change rien. Et c'est pour ça que Dieu nous donne de vivre les choses au sens local. Il n'a pas envie que les chrétiens soient juste des hommes et des femmes qui vivent les choses d'une manière tellement loin. On aime tout le monde. Moi, j'ai remarqué que j'aime tout le monde dans mon village, mais que les gens avec lesquels c'est le plus difficile, c'est mes voisins directs. Ben oui, parce que c'est facile d'aimer quelqu'un qui habite à Coulommiers quand tu habites à Chailly-en-Brie. C'est pas un problème. Parce que même s'il met la musique fort le soir, ça ne te dérange pas. Si son chien vient dans ton jardin, dans le jardin des autres, ça ne te dérange pas, c'est pas chez toi. Par contre, quand c'est chez toi, là, ça te dérange. Et là, c'est plus compliqué d'aimer. Et dans l'église, c'est la même chose. Jésus a imaginé l'église locale à cause de ça. Alors, est-ce que l'église locale existe vraiment ? On en a parlé il y a quelques mois de ça. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il suffit simplement de reprendre toutes les épîtres de Paul et vous allez voir à qui il écrit. À l'église universelle, non, il écrit à l'église de Corinthe, à l'église d'Éphèse, à l'église de Philippe, à l'église de telle et telle ville. Et même Jésus, à la fin, dans l'Apocalypse, vient écrire à des églises physiques, des hommes et des femmes qui se retrouvent dans une localité. Et des églises qui ont d'ailleurs, notons-le, et notamment quand Jésus leur écrit dans l'Apocalypse, qui ont des caractères différents, des personnalités différentes. Donc l'église locale existe pleinement dans la pensée biblique. Elle est importante. Nous avons besoin de parents, de frères et sœurs, de familles pour vivre. Nous avons besoin de. Nous ne sommes pas faits pour vivre en autarcie. On n'est pas faits pour vivre tout seul, déconnecté de tout. Alors je sais, certains ont un petit peu plus la faculté de vivre un peu moins connectés de tout. Enfin, ceci dit, en général, ils ont quand même besoin de quelqu'un, au moins pour la nourriture et quelque chose comme ça. On a tous besoin les uns des autres. Une étude, il y a quelque temps de cela, montrait que les enfants qui grandissaient dans les systèmes collectifs, notamment dans les kibbutz, étaient bien mieux éduqués que les autres. Et en fait, l'analyse, c'est des sociologues pas chrétiens du tout, hein, qui ont fait cette étude-là. L'analyse était très simple. Les enfants qui grandissaient au sein d'un système où la famille était mise en travail d'une manière véritable, où il y avait des repères divers et variés et où les règles de la collectivité étaient assez facilement repérables. Eh bien, ces enfants avaient beaucoup plus de capacité à devenir des adultes mûrs, à être équilibrés, à ne pas souffrir de troubles psycho-affectifs que des enfants qui vivent peut-être dans de très grandes villes avec beaucoup plus de monde autour d'eux, mais avec aucune relation les uns avec les autres. Et je crois que c'est pour ça que Dieu non seulement nous donne des familles, alors vous allez me dire, elles sont bien souvent explosées, oui, désolé, mais ça, c'est pas de la faute de Dieu, c'est comme les guerres. C'est pas de sa faute si en 2020, en France, on décide d'exploser la cellule familiale. C'est pas de la faute de Dieu si on vit n'importe comment et qu'arrivent des drames et des choses qui sont uniquement la conséquence de notre péché. C'est comme les guerres, c'est pas de la faute de Dieu si on sort des chars d'assaut partout et tout ça. C'est bien le fruit uniquement de la pensée humaine et de la rébellion qui est poussée au maximum. Le cœur de Dieu, il est de mettre autour de nous des hommes et des femmes avec lesquels on va grandir, qui sont une famille. Et je le dis souvent et je le redis encore ce matin, j'ai grandi et je suis là au milieu de vous et je pense à peu près sain de corps et d'esprit parce que j'ai eu une église, parce que j'ai eu autour de moi non seulement une maman et une frangine, mais tellement. Tellement, tellement de gens qui ont été pour moi des repères. Tellement. On a besoin de ça. Et t'as beau dire, c'est plus facile sans. Je te dis que c'est faux. Et que c'est archi faux. Tu peux me dire que t'es blessé par des gens. Si on devait faire un sondage ce matin et faire lever la main, qui a été blessé par quelqu'un ici dans l'église ? Je pense que si quelqu'un ne lève pas la main, c'est juste qu'il est hypocrite ou qu'il n'a aucune conscience de ce qu'il vit. On a tous été blessés. Parce qu'à partir du moment où on s'aime, on se blesse. C'est comme ça. On s'aime, on se blesse. Mais la richesse, elle est justement de savoir s'aimer plus que ce qu'on s'est blessé et d'aller de l'avant. Je ne suis pas là pour négliger les blessures qu'on a pu avoir. Et certains ont été blessés d'une manière vraie dans l'église. Et peut-être même dans cette église-là. Maintenant, si ça c'est une excuse pour ne pas vivre ce que Dieu a préparé pour toi, eh bien c'est un drame. Ça veut juste dire que Satan a gagné un point. Et un point important. Vous savez, il y a des points que Satan peut gagner dans nos vies qui ont plus d'importance que d'autres. Celui-ci est un point capital. Si nous le laissons neutraliser nos relations les uns avec les autres, il gagne un point capital. Ne laissons pas l'ennemi de nos âmes nous couper de ce qui est essentiel. Ne nous laissons pas aveugler par cette mentalité qui dit « Ouais, mais bon, dans l'église universelle, tout ira bien, c'est bon, je peux vivre ici en autarcie complète. » Non, c'est pas possible. Tu veux que je te dise, parce qu'a priori, les frères que tu as ici, tu les retrouveras au ciel. Si tu n'apprends pas à les aimer ici sur un temps qui est court, ça risque d'être compliqué sur l'éternité. Surtout sur la fin, il paraît que c'est long. L'église locale est un lieu d'entraînement, un endroit dans lequel on est amené à aimer, dans lequel on est amené à grandir, dans lequel on est amené à expérimenter la réalité de ce que Dieu a préparé pour nous. Et de la même manière que les enfants dans une maison ne poussent pas tout seuls, de la même manière, un chrétien qui serait déconnecté de ses liens familiaux dans l'Église ne peut pas grandir tout seul. J'en profite pour faire une petite aparté, pour redire aussi, et je réinsiste un peu là-dessus, mais parce qu'on a eu une rencontre dernièrement avec les responsables dans l'Église. Et un des points qui amène notre vigilance est la facilité avec laquelle nous pensons que l'Église est un lieu merveilleux pour les enfants, mais qui nous dédouane, osons-nous le dire, qui nous dédouane de notre responsabilité de parents. Je bénis Dieu, et je le redis et je le redis, je bénis Dieu de cette Église et de l'appel qu'il a déposé dans le cœur de cette Église au tout départ, avant même que ce soit une Église d'ailleurs. Avant même que ce soit une Église, la première chose qui a été mise en place, c'est des clubs pour les gamins. Et à l'époque, on y était avec Marie et Peter, on était des tout petits loulous, on avait 5-6 ans. On a fait partie des premiers bénéficiaires avant que ça s'appelle une Église, avant même qu'on ait l'idée que ça s'appelle une Église. D'accord ? Dieu a mis ça dans le cœur de l'Église. Et je crois ici, mais d'une manière beaucoup plus large aussi. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui a marqué, qui a été, qui est comme quelque chose qui est gravé dans l'ADN de l'Église ici à Coulommiers. Mais pour autant, en aucun cas ça peut me dédouaner, moi en tant que papa, de la responsabilité que j'ai envers mes enfants. Parce qu'un jour ou l'autre, et je l'ai déjà dit, mais je le redis, il y a une chose sur laquelle je suis persuadé et je sais que Dieu va me demander des comptes. C'est à l'égard de celles et de ceux que Dieu m'a confiés prioritairement. À savoir mon conjoint et mes enfants. La première chose que Dieu va me demander, vous savez, dans la parabole des talents, c'est évident. Dieu donne des talents. Et je crois que le premier talent que Dieu nous donne, c'est justement celui-ci. C'est celui de la famille, c'est celui de celles et de ceux que Dieu nous a confiés. La bonne nouvelle, c'est que Jésus ne nous laisse pas seuls. La bonne nouvelle, c'est que même quand on s'est planté, on a le droit de revenir vers lui, de lui demander pardon et de lui demander grâce et de lui demander « mais maintenant, comment je peux faire ?» Si vous pensez, et vraiment, mais je vais vous le dire en toute humilité, si vous pensez que je suis un modèle de père parfait, allez voir mes gamins, ils vont vous le dire. Allez parler avec eux, ils savent qu'ils ont le droit de tout dire, il n'y a pas de secret, d'accord ? Allez les voir. Mais ils vous diront aussi autre chose. Quand papa se plante, il le dit et il demande pardon. Et croyez-moi, je me plante souvent. Très souvent. Mes enfants ne sont pas bien éduqués parce que je les ai bien éduqués. C'est juste une grâce de Dieu. Mais j'essaye de tenir une chose, et nous essayons de tenir une chose. C'est de rester dépendant de Dieu et de savoir que il y a une chose que je ne pourrais jamais mettre en arrière. C'est de dire un jour à Dieu, ouais, mais ça, ça je ne pouvais pas le faire. Ça, c'était le job de l'Église. Non. Le job de l'Église est bien souvent, avant tout, le job de la maison. Alors oui, Dieu fait grâce. Oui, on n'a pas des modèles parfaits dans nos maisons, et j'en suis aussi l'exemple dans ce que j'ai vécu, dans ma propre maison, quand moi j'étais enfant. Mais je sais aussi que Dieu relève. Mais ça enlève absolument en rien ma responsabilité aujourd'hui en tant que papa. Ce que je suis aujourd'hui en tant que papa, et je parle du papa, hein, ben, Dieu me demandera comment j'ai fait. Et s'il y a des choses que je laisse traîner et que je blesse, et que quand le Saint-Esprit me le montre, j'y écoute ça, ben moi je te garantis que ça c'est un dossier qui ressortira. Pourquoi ? Parce que Dieu demande des comptes. Il fait de nous des gestionnaires, des dispensateurs de sa grâce, mais aussi des gérants, des économes, de ceux qui reçoivent des talents et qui doivent rendre compte de comment ils ont utilisé les talents. Sois attentif, soyons attentifs à ça. Soyons attentifs à comment nous utilisons, comment nous vivons ces talents que Dieu nous donne. Et te laisse pas écraser par l'ennemi qui te dit, ouais, mais écoute, maintenant c'est trop tard, c'est cramé. Non, je crois vraiment pas. Je crois en un Dieu de restauration. Je crois en un Dieu qui ramène la vie là où c'est mort. Je crois en un Dieu de miracle. Mais le Dieu de miracle agit dans un cœur de repentance et dans un cœur qui prend ses responsabilités. Pas dans un cœur qui se dédouane, dans un cœur qui prend ses responsabilités et qui dit, Jésus, là j'ai besoin de ta grâce. Je ferme la parenthèse. Nous avons besoin de l'Église pour pousser, pour grandir aussi les uns et les autres. Nous avons besoin d'être les uns avec les autres. On va juste reprendre très rapidement les 12 principes les uns les autres qui sont nommés plus de 50 fois dans le Nouveau Testament. Et voilà ce qui nous est dit. Il nous est dit d'être membres les uns des autres. C'est la première chose, Romains 12, 5. Je vous laisse noter juste les références. Romains 12, 5, le fait d'être membres les uns des autres. Romains 12, 10, le fait de s'aimer les uns les autres. Romains 12, 10, toujours. Le fait de se faire honneur les uns aux autres. Dieu n'est pas contre le fait qu'on se fasse honneur. Attention, c'est lui qui reçoit la gloire et l'honneur au maximum. D'accord ? Mais le fait de s'honorer, le fait de prendre soin les uns des autres est quelque chose sur lequel le cœur de Dieu est attentif. Et il sait que c'est ça qui nous aide à grandir les uns avec les autres. Ayez les mêmes sentiments, Romains 15, 5, les uns envers les autres. Acceptez-vous les uns les autres. Jésus ne fait pas de différence. Il nous encourage à nous accepter les uns les autres. Romains 15, 17, 15, 7, pardon. Avertissez-vous les uns les autres. Romains 15, 14. Le fait d'être vigilant, le fait d'être en souci pour l'autre. Quand je suis en souci pour quelqu'un, si je vois qu'il est en train d'être sur un chemin où ça risque de glisser, je vais lui dire, je vais le prévenir, je ne vais pas le laisser se planter parce que c'est quelqu'un qui compte pour moi. Et dans ce sens-là, on doit s'avertir. Fais gaffe, fais attention là. C'est pas un fait attention suspicieux et méchant. C'est un fait attention parce que j'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. J'ai envie que tu grandisses, j'ai envie qu'on finisse la course ensemble. J'ai envie qu'on la gagne ensemble cette course. Saluez-vous les uns les autres. Romains 16, versets 3 et 16. Et là je suis désolé, je suis obligé de faire une petite aparté. N'attends pas toujours, j'entends toujours ça. Hier, je courais avec un ami à moi, vraiment quelqu'un qui devient un ami, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis on courait. Et puis il me dit, tu vois Serge, c'est bizarre, en Seine-et-Marne, il ne vient pas de la Seine-et-Marne le gars. Les gens ne disent jamais bonjour. Il n'a pas tout à fait tort. Mais là où ça me touche, il me dit, bah tu sais moi... maintenant j'ai décidé de plus dire bonjour non plus, j'attends qu'on me dise déjà bonjour en premier. J'ai dit ouais, mais comme ça peut durer longtemps. Si tout le monde attend que l'autre soit le premier, tu vois, alors ben là on se marre parce que c'est à l'extérieur de l'église. In church, c'est la même chose. Combien de fois j'ai entendu ouais, mais les jeunes me disent pas bonjour. Ou les jeunes dire « Ouais, mais les vieux sont trop éloignés de nous. Ils ne comprennent pas ce que je vis. » On a besoin de se saluer. Et se saluer, ce n'est pas juste une tape sur l'épaule, c'est de prendre le temps. Attends pas que ce soit les autres qui le fassent en premier. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit « Saluez-vous les uns les autres » que si l'autre il te salue vraiment. Ça aurait été trop simple. Il n'y a pas de jurisprudence à ce niveau-là. Il a dit, saluez-vous les uns les autres, c'est tout. Je ferme la parenthèse. Un autre que j'aime tellement, Galates 5, 13. Soyez serviteurs les uns des autres. L'exemple type, c'est Jésus qui va laver les pieds de ses disciples. Soyez serviteurs les uns des autres. Mettez-vous en dessous des autres pour les servir et les honorer. Mettez-vous en dessous des autres pour faire les choses que personne ne veut faire. Ça ne vous dit rien par rapport aux membres qui sont plus fragiles, plus petits, moins en vue. Soyons serviteurs les uns des autres. porter les fardeaux les uns des autres. Eh bien ouais, parce que dans une famille, il y a toujours des choses qui sont apportées, des fardeaux qui sont apportés. Mais si chacun se dit, ça c'est son fardeau à lui, c'est pas le mien, ça devient vite compliqué. Mais si on comprend que ces choses, on peut les vivre ensemble, on doit les porter ensemble, ça devient beaucoup plus facile. Portez les fardeaux des uns des autres. Supportez-vous les uns les autres, Éphésiens 4, 2. Soumettez-vous les uns aux autres, Éphésiens 5, 21. Et enfin, lequel j'ai oublié ? Aimez-vous ? Non, je le dis en premier. En deuxième, pardon. Encouragez-vous. Encouragez-vous. Il y avait un excellent message de Claude sur l'étymologie du mot encourager il y a au moins ça, mais qu'il a rappelé plusieurs fois. S'encourager, c'est remettre le cœur dedans. Dans une église, et le sens de l'église locale, et c'est pour ça que ça peut se vivre que dans le sens de l'église locale, c'est qu'on est là pour s'encourager et se remettre le cœur dedans. Quand mon cœur s'éloigne de la pensée de Christ, il y a quelque chose qui est merveilleux dans l'église si je la vis comme Dieu le veut. C'est qu'autour de moi, je vais trouver des frères et des sœurs qui vont être capables de me ramener dedans. Pas avec un air hautain, pas avec un air extérieur, mais parce qu'ils ont envie de me voir reprendre ce que je veux, de me voir vivre comme Dieu le veut. Tous ces les uns les autres qu'on vient de voir sont en fait le principe numéro un de la redevabilité. On m'a posé la question une fois, Serge, où est-ce qu'on parle de la redevabilité dans la parole de Dieu ? Eh bien écoute, déjà dans le Nouveau Testament, plus de 50 fois, à chaque fois que tu vois les uns les autres, on te parle de redevabilité. Parce que ça va dans les deux sens. La redevabilité, c'est le fait d'être en interdépendance les uns avec les autres. C'est le fait qu'on ne peut pas grandir autrement que les uns avec les autres. Et l'Église, c'est ça. Je ne peux pas grandir sans les autres. Un chrétien qui dit qu'il est fort parce qu'il est tout seul, c'est un chrétien d'illusion. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Trouve-moi un seul passage dans la Bible qui dit qu'un chrétien, il est fort quand il est tout seul et je m'incline. Mais cherche maintenant. La redevabilité, les uns les autres, tous ces principes où nous sommes en interdépendance. Posons-nous la question, comment est-ce que je le vis dans le quotidien ? Comment est-ce que je suis attentif à ces choses-là ? Comment est-ce que je vis cette réalité du corps de Christ ? On voit, on était sur quelque chose d'assez général. Ouais, on est tous membres les uns des autres, et puis l'Église, c'est le corps de Christ, c'est son épouse, ça c'est dans l'Apocalypse, c'est pas pour tout de suite. Et puis en général, d'ailleurs, on met plein d'autres trucs. Ouais, mais moi j'aimerais me marier avant, j'aimerais avoir des enfants avant, j'aimerais avoir un boulot avant, j'aimerais avoir ma retraite avant. Oublie ça. J'attends qu'une chose, c'est que Jésus revienne. J'attends qu'une chose, c'est qu'il revienne. Ça fait péter tous mes projets en attendant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'attends qu'une chose, c'est qu'il revienne. Mais pour qu'il revienne, il veut que je vive ces choses-là. Il veut que le monde entier le voit. La redevabilité. L'Église, c'est un corps donc qui est en action. Éphésiens 4, 16, on va le lire en parole vivante seulement. Éphésiens 4, 16, en parole vivante, où on voit que l'Église est un corps en action. Car c'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. Jésus reste la tête, d'accord ? C'est lui qui donne toute cette cohésion et cette unité. C'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble, bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse. Imagine tous les liens qu'il doit y avoir dans mon corps pour que mon orteil fonctionne. Il suffit d'une seule rupture à un endroit pour qu'il fonctionne plus normalement. Imagine toutes les connexions qu'il faut. Rien que pour ça, tu es obligé de croire en Dieu dans la vie parce que ça, c'est impossible que ce soit le fruit du hasard, mec. C'est impossible. T'imagines toutes les connexions qui font que pendant toute ta vie, ça fonctionne et que tu ne te poses jamais la question de savoir comment ton orteil répond à ta tête alors qu'il y a des centaines de connexions, des choses qui se passent là-dedans que tu ne comprends pas et qui pourtant font que ça marche. C'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments forme une structure harmonieuse, à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. Dieu ne te demande pas de faire autre chose que ce que tu fais, que ce que tu dois faire. Par contre, ce que tu dois faire, il te demande vraiment de le faire. Ce que ma part de responsabilité dans ma maison, il ne la demande pas aux autres, il me la demande à moi. Mais si moi, je ne le fais pas, ça amène une rupture. De la même manière, dans l'Église, la part de responsabilité qu'il me donne, si je me dis toujours, j'attends que les autres le fassent, j'handicape l'Église. Je lui fais comme une coupure. Réfléchissons parfois. Si tout le monde agissait comme moi, qu'est-ce que serait l'Église demain ? À quoi elle ressemblerait ? De cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble, dans un esprit d'amour, à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. On voit que quand le corps est en action, quand toutes ces connexions les uns les autres sont en œuvre, quand elles se multiplient dans tous les sens, elles font que le corps fonctionne bien et grandit en cohérence. Et c'est ça la pensée de Jésus pour l'Église locale. Il dit, demain, ça sera dans l'Église universelle et on va se retrouver tous ensemble au paradis. Mais je te donne un terrain d'entraînement pour que tu puisses aimer les gens, ceux que tu vois déjà. Pas ceux que tu vois pas et qui sont faciles à aimer. Ceux que tu vois là. Ceux qui sont autour de toi. L'Église est une unité de protection. On l'a lu tout à l'heure quand Jésus dit à Pierre, dans Matthieu 16, 18, où il dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre elle. » L'Église est un centre d'entraînement, un centre où on grandit, mais c'est aussi un centre de protection, un lieu de protection, un espace vital pour le chrétien. Si je m'en coupe, si je m'en sépare, alors je suis à la merci de l'ennemi. Elle est la colonne et l'appui de la vérité, nous dit Paul dans 1 Timothée 3,15. Il dit quand tu vis l'Église, et c'est pour ça que les deux épîtres à Timothée et à Tite sont tellement importantes, Paul va décrire à ces deux garçons, à ces deux jeunes responsables dans l'Église, comment on doit vivre dans l'Église. Parce qu'il dit, c'est là, regarde, 1 Timothée 3,15, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Voilà comment Dieu voit l'Église. Elle le voit comme le lieu où la vérité est proclamée, là où elle peut être vécue, là où elle peut être testée, là où elle va rendre toutes celles et ceux qui s'y lient plus forts, plus grands, plus proches du cœur de Dieu. L'Église est une unité de protection tellement importante. Et malheureusement, c'est une unité de protection de laquelle le diable essaye absolument, par tous les moyens, de nous couper. Je parlais tout à l'heure des blessures qui sont les nôtres, mais il y a tellement de fois où le diable essaye de nous couper de ce corps avec des vraies blessures. Laisse pas les blessures te couper de ce que Jésus a imaginé pour toi. L'Église est le vecteur par lequel Christ est connu dans le monde. Jean 13, 35 nous dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si... » Amen. Amen. Si nous sommes membres les uns des autres, si nous vivons les uns les autres, alors l'Église se voit comme un lieu, et comme le lieu de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui fait que l'Église de Jérusalem, au tout début, au premier siècle, grandit si, d'une manière si importante ? Grâce aux médias ? Il n'y en a pas. La technologie ? Elle n'existe pas encore. Grâce à l'impression de la Bible, pas encore là. Uniquement à cause de ce que les hommes et les femmes sont en train de vivre dans la présence de Dieu. À cause de leur amour les uns pour les autres. Est-ce que cette église était parfaite ? Tu vas dans Actes 6 et tu découvres tout de suite que ça commence par être un peu le bazar. Et même juste avant, dans Actes 5, il y en a même qui mentent. Est-ce que cette église n'a pas de problème? Bien sûr que si. Acte 7, Étienne se fait trucider à cause de sa foi. Et tous les autres chapitres vont nous parler des défis de l'église. Mais elle est un lieu de protection essentiel et un lieu de croissance pour toi et moi. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On va conclure. Ma place dans l'église locale est le terrain, l'espace dans lequel Dieu, dans sa sagesse infinie, a imaginé de me placer pour que j'expérimente son plan, pour que je vive et que j'entre. C'est un mot qui est très à la mode en ce moment. Le mot « saison » est destiné. Que je vive la saison dans laquelle je suis et que j'entre pleinement dans ma destinée. Mais si t'en fais juste un slogan, ça sert à rien. Parce que pour vivre la saison dans laquelle tu es et pour embrasser pleinement ta destinée selon Dieu, il faut vivre ce que Dieu prépare pour toi et moi. Vouloir rentrer dans notre destinée et vivre pleinement la saison que Dieu a pour toi et moi, en ignorant le principe de l'Église et ce principe de croissance essentielle que nous avons les uns avec les autres est quelque chose d'utopique, est quelque chose de faux, est quelque chose d'illusion. C'est dans cet espace qu'il veut m'amener à expérimenter toute la grandeur de sa grâce puissante, celle qui non seulement me sauve, mais qui me fait vivre, expérimenter les valeurs du royaume de Dieu. Si nous sommes appelés à vivre comme les membres d'un corps en interdépendance les uns avec les autres, nous devons nous souvenir que tout cela commence par le premier objectif, ma communion avec Dieu. Est-ce que la parole de Dieu, est-ce que ma communion avec Dieu, est-ce qu'elle est ce marteau, comme rappelait Claude la semaine dernière, qui vient briser mon égoïsme, qui vient briser ce qui me sépare des autres, qui le met suffisamment en pièces et que je laisse suffisamment être mis en pièces pour rentrer en connexion avec les uns et les autres et pour vivre l'Église comme Dieu le veut? J'ai quelques questions à te laisser et on va prier. Comment est-ce que je comprends ma place au sein de l'Église dans laquelle Jésus m'a placé? Peut-être tu es déjà engagé dans cette Église et je t'invite vraiment à y réfléchir. Quel est le sens de ton engagement? Comment tu le vis? Je ne te demande pas ce que tu y fais dans tel ou tel secteur. Je te demande comment tu le vis avec ton cœur. Comment tu vis ces principes des uns et des autres. Comment on est appelé à grandir les uns avec les autres? Est-ce que c'est un principe que je vis réellement ou est-ce que c'est un principe qui est devenu quelque chose de loin? Est-ce que je sais où Dieu m'a placé aujourd'hui? Et là, c'est peut-être une question qui s'adresse quand on est dans un temps de questionnement. Plusieurs d'entre vous nous rejoignez ces derniers temps. Des fois, pour de multiples raisons. On a été blessé ici ou là, la distance s'est installée. Il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut changer de saison dans nos vies. Mais si tu vis un changement de saison uniquement comme une fatalité, ça ne va rien changer. Pose-toi la question, où est-ce que Dieu me veut? Où est-ce qu'il me place aujourd'hui et qu'est-ce qu'il veut que je vive dans cet emplacement? Qu'est-ce qu'il a envie de me donner et qu'est-ce qu'il a envie que moi je donne aux autres? Comment il me voit dans son corps, d'une manière pratique, d'une manière locale, d'une manière visuelle, d'une manière concrète? Qu'est-ce que Dieu a imaginé pour toi et moi? À quelle place je me tiens? Quelle est la fonction qu'il a imaginée pour moi? J'ai besoin de me reposer ces questions régulièrement. J'ai besoin d'ouvrir la parole de Dieu et de dire, Seigneur, comment est-ce que je vis l'Église? Est-ce que je la vis simplement comme un lieu dans lequel j'ai tous les services qui me sont donnés? Dans lequel on a un lieu qui est chauffé, des agapes, une prise en charge des enfants qui est plutôt pas mal, un groupe de louanges qui tient la route, tout ça? Où est-ce que je la vis? Et c'est déjà bien. Mais où est-ce que je la vis? Et c'est là où Dieu veut nous emmener. Comme je suis un membre, je fais partie. Quand je suis là, ça bénit, si je fonctionne correctement. Mais si je ne fonctionne pas correctement, ou si je m'en vais, il y a un problème. L'Église, c'est ça. Où est ma place aujourd'hui? Comment je vis cette place-là? Est-ce que je sais où est-ce que Dieu me veut aujourd'hui? On n'est pas tous appelés à vivre tout le temps dans la même église locale, d'accord? Je ne suis pas en train de prêcher ça. Par contre, on est tous amenés à vivre là où Dieu nous veut aujourd'hui, d'une manière claire. J'ai besoin de savoir où Dieu me veut aujourd'hui. On avait un partage la semaine dernière avec quelqu'un qui me disait, mais en fait, le Seigneur m'a ramené ici. Il m'a dit, c'est là. Pose la question à Dieu. Moi, je suis sûr qu'il répond. Où est-ce qu'il te veut? Avec quel frère et sœur? Pas l'adresse. Avec quel frère et sœur? Qui sont celles et ceux qu'il veut placer autour de toi pour être ceux avec qui tu vas construire la redevabilité? Avec qui tu vas pleurer? Avec qui tu vas prier? Avec qui tu vas te réjouir aussi? Qui vont être tes conseillers aussi? Quel est le lieu? Où est-ce que Dieu me veut? C'est les questions que j'ai envie de te laisser. On va fléchir nos têtes. Seigneur, on veut venir vers toi. L'Église est tellement, tellement dans ton cœur. C'est tellement quelque chose de merveilleux. Et ça serait beaucoup trop long de vouloir tout regarder ce matin. Mais merci pour ta parole que tu nous donnes et qui est vraiment, Seigneur, ce miroir, cet endroit dans lequel tu nous parles de ton intention, tu nous parles de ton corps, tu nous parles de ton épouse. Tu nous en parles, Seigneur, au sens grandiose, au sens qui nous dépasse tellement jusque dans l'Apocalypse où tu nous racontes, Seigneur, la fin, Seigneur, de comment tu as envie de nous voir dans ta présence d'une manière pleine et entière. Mais où tu nous racontes aussi aujourd'hui, concrètement, comment tu veux qu'on vive cette réalité parce que tu veux nous préparer. On parlait de l'Église qui est cette épouse qui se prépare sans tache ni ride. Seigneur, eh bien, c'est dans cet espace-là que nous voulons nous laisser préparer. Nous voulons être des hommes et des femmes qui se laissent préparer par toi. Des hommes et des femmes qui quand ils se posent la question, savent ce que tu en penses. Seigneur, où est-ce que tu me veux aujourd'hui? Avec quel frère et sœur tu veux que je grandisse dans la redevabilité? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est dans un autre lieu? Mais Seigneur, montre-le-nous. Montre-le-nous pour que nous grandissions véritablement et que réellement nous soyons dans ces espaces de protection et de croissance que toi tu as préparé pour nous. Seigneur, que là où il y a des mensonges d'illusions, que là où nous avons de fausses et de mauvaises conceptions de l'Église, Seigneur, eh bien, je prie que l'autorité de ta parole et de ton esprit viennent nous les révéler. Seigneur, que nous ne marchions pas dans l'illusion, que nous ne marchions pas dans des chimères. Seigneur, nous voulons marcher dans ce que toi tu as préparé pour nous. Nous voulons marcher dans la réalité de cette Église glorieuse, puissante, sans tache, dans laquelle je suis en interdépendance les uns avec les autres et avec toi. Amen. Amen.